orbe, mais ne voyait que Priti, happant de ses tentacules invisibles l'espace qui les séparait encore. Le bateau accosta et la jeune femme se jeta au cou de Seth.
« Tu es vivant !» souffla-t-elle contre son oreille. « Tu es vivant !»« Grâce à toi, il paraît !»
Seth se dégagea à regret de ses bras.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Ça a failli mal tourner, mais Eden m'a sauvé la mise !» répondit Priti.
« On a entendu 3 coups de feu !»«
Oui, il y a un mort dans le cabanon, troué de partout !» expliqua-t-elle. « J'ai essuyé la crosse du pistolet et je l'ai jeté dans le fleuve. Tu crois que j'ai bien fait ?»«
Oui, oui !» balbutia Seth, épaté par son sang-froid.
C'est pas un meurtre, plutôt de la légitime défense. Le type voulait...
Tu as bien fait, la rassura-t-il, pressé par les événements.
Maintenant, il faut qu'on déguerpisse. Il y a un échange dans un village en aval, avec Solana comme otage, ajouta-t-il en se tournant vers Ancon. Et on n'est pas en avance.
Je viens avec vous,
dit Priti sans réfléchir.
Non, rentre avec les filles avant que les gardes se réveillent. Je t'assure, ça vaut mieux, et vous en avez assez vu pour ce soir.
N'y compte même pas.
Priti, j'ai risqué ma virginité pour sauver ta peau. C'est pas maintenant que je vais te laisser pertuer.
Allez, ne perdons pas de temps,
fit Hassan en bondissant sur le plat-bord de l'embarcation. Ancon ne bronchait pas. Plus préoccupé par les ricanements des hippopotames et le visage fermé d'Eden, toujours ailleurs. Elle et Ika prirent place dans le Mokoro et les pagaies en main abandonnèrent le poste de garde. Le Land Cruiser qui les avait menés là les attendait à 2 kilomètres. Eux filèrent avec le bateau à moteur, Priti à la proue. Seth avait prévenu la police de Rundu avec le portable de Ancon, un appel qui avait fait comme une traînée de poudre de l'autre côté de la frontière. Le ranger pilotait l'embarcation, Priti faisait la vigie à l'avant, sa robe légère pour affronter la fraîcheur du fleuve. Ancon, le fusil à la main, scrutait les ombres et les bandipos qui somnolaient comme des récifs. Priti n'avait pas eu le temps d'apprendre à Seth le décès de sa grand-mère. Elle le ferait plus tard. Il sortait vivant de ce cauchemar. L'Okavango étirait ses méandres nocturnes devant leurs yeux grands ouverts. Il n'avait pas de carte de la frontière, mais la capture d'écran du smartphone mentionnait la présence du village de Kateré. Seth ralentit à l'approche, prenant garde aux hippos immergés qui bullaient sous la lune. 30 minutes d'avance sur l'horaire. Les hommes des Kanjo seraient en retard, mais le transfert des cornes prendrait un temps pour eux précieux. Il fallait encore déterminer le lieu exact du rendez-vous, tout en restant invisible aux yeux du colonel Betoisé. Kateré n'était qu'un hameau de quelques huttes, où aucune lumière ne filtrait, sans autre bruit que le vacarme des grenouilles. Ils mirent pied à terre sur la rive angolaise, amarrèrent le bateau et se glissèrent dans l'obscurité. Ancon marchait devant, son fusil entre les mains, les poches de son treillis alourdies de chargeurs. Seth suivait avec une arme de poing ramassée parmi les morts. Un chien aboya qui leur fit presser le pas, sans réveiller personne. De fait, un espace vierge se profila bientôt, un terrain d'herbes sèches et rases qu'ils atteignirent sans rencontrer âme qui vive. Ancon observa les bosquets alentour, la topographie, les vestiges d'un pont à quelques encablures.
Une piste d'atterrissage, souffla Seth.
Le trio se dirigea vers le bosquet le plus touffu, définissant à voix basse le rôle de chacun. S'ils avaient vu juste, le chef de la Casa passerait le fleuve avec le chargement de cornes que l'avion embarquerait après avoir relâché Solana. Duplessis avait-il eu le temps de prévenir le pilote de l'attaque du comptoir? L'échange pouvait être annulé à la dernière minute, mais Seth comptait sur l'appât du gain et la fortune que représentaient les cornes. Ancon acquiesçait à tout, le chargeur plein. Un véhicule approcha de l'autre côté de la rive, coupant court à leur discussion. Ils se tassèrent derrière les branches du bosquet, attentifs au mouvement du 4x4 qui venait de s'arrêter près du pont en ruine. 10 minutes d'avance. Azuel sortit du véhicule, visiblement méfiant. Il alluma une lampe torche, arpenta la rive en se penchant sur les branchages, et découvrit une embarcation cachée près du pont. Un Mokoro qu'il tira partiellement au sec. Puis il ouvrit le coffre de la jeep et transporta de lourds sacs en toile jusqu'à la pirogue. Les cornes des rhinos. Il y en avait trop pour faire un sale voyage. Le colonel Betoisé effectua un premier aller-retour, déposant les 10 premières charges sur la rive angolaise, puis un second voyage, se délestant du reste de la cargaison. L'heure du rendez-vous sonna alors qu'Azuel traversait une dernière fois l'Okavango. On devinait sa silhouette sous la lune, épiant les bruits de la nuit près des sacs amoncelés en bord de piste. Eux ne